RFI, 4h à Paris, 3h en temps universel.
Antoine Galen.
Les alliés européens de Kiev resserrent les rangs à Londres. Le Royaume-Uni et la France proposent une trêve partielle en Ukraine. On y revient en début de journal. Entre Paris et Alger, les tensions ne retombent pas. Une note secrète du ministère de l'Intérieur revendique la nécessité d'engager un rapport de force avec les autorités algériennes au sujet de l'immigration. Dans ce journal également, le chef de la police sri-lankaise est en cavale. Et puis alors que la cérémonie des Oscars a lieu en ce moment à Hollywood, le film Bonjour l'asile sort en salle. Une comédie qui met en scène deux citadines engagées. L'ambiance était plus chaleureuse à Londres qu'à Washington. Les alliés de Kiev se sont réunis ce dimanche pour un sommet sur la sécurité de l'Europe et de l'Ukraine. Et ce, deux jours après un échange tendu entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Pas de rancune pour le président ukrainien qui se dit en mesure de restaurer les relations avec les États-Unis. L'Europe doit se réarmer de manière urgente. Les mots de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Autre prise de parole, celle du Premier ministre britannique Keir Starmer, qui accueillait le sommet. On l'écoute.
Premièrement, nous allons maintenir le flot d'aide militaire et augmenter la pression économique sur la Russie afin de renforcer l'Ukraine dès maintenant. Deuxièmement, nous avons convenu que toute paix durable doit garantir la souveraineté et la sécurité de l'Ukraine. Et l'Ukraine doit être à la table des négociations. Troisièmement, si un accord de paix est conclu, nous renforcerons encore les capacités militaires de l'Ukraine pour écarter toute invasion future. Quatrièmement, nous allons développer une coalition de bonne volonté afin de défendre cet accord et de garantir la paix. Le Royaume-Uni est prêt à soutenir cet effort avec des troupes au sol et des avions dans le ciel aux côtés d'autres nations, car l'Europe doit faire le gros du travail. Mais pour conforter la paix sur notre continent et pour réussir, cet effort doit bénéficier d'un franc soutien américain. Nous travaillons sur ce point avec les États-Unis. Et que ce soit très clair, nous partageons avec le président Trump le désir d'une paix durable. Maintenant, il faut que nous y parvenions ensemble.
Et Keir Starmer ainsi que Emmanuel Macron ont proposé une trêve d'un mois dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Les combats au sol ne seraient donc pas concernés. L'aide humanitaire bloquée à Gaza par Israël. L'ONU appelle à son rétablissement immédiat. De son côté, l'Égypte accuse Israël de violation flagrante de l'accord de trêve. L'État hébreu veut faire pression pour que le Hamas accepte une proposition américaine qui prévoit une extension du cessez-le-feu jusqu'à la mi-avril. Proposition qui implique la remise immédiate de la moitié des otages restants, morts ou vivants. De son côté, le Hamas répète sa volonté de passer à la deuxième phase prévue par l'accord initial. Elle devait entrer en vigueur ce dimanche. Au Tadjikistan, 5,5 millions d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche. Élection législative sans suspense puisque l'opposition est absente. Le parti du président Emomali Rahmon au pouvoir depuis 1992 devrait l'emporter. Ce scrutin intervient un mois après la condamnation de 9 responsables politiques d'opposition et de journalistes à des peines allant jusqu'à 27 ans de prison pour coup d'État. Entre Paris et Alger, la situation toujours aussi tendue sur le dossier de l'immigration. Alors qu'Emmanuel Macron avait appelé à l'apaisement, nouveau regain de tension ce week-end. Le journal La Tribune publie une note secrète du ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau, revendiquant la nécessité d'engager un rapport de force avec les autorités algériennes. Aurélien Devernoy.
La fuite intervient moins de 48 heures après les déclarations d'Emmanuel Macron considérées comme un camouflet pour le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Dans cette note de 3 pages, censée être hautement confidentielle, les services de l'Intérieur exposent la stratégie pour tordre le bras à Alger. Restrictions massives de visas, en priorité pour l'élite politique, économique et militaire du pays, contrôle renforcé des liaisons maritimes, convocation des consuls généraux algériens. Mais aussi remise en cause de dossiers éminemment sensibles comme l'indemnisation des essais essais nucléaires menés par la France en Algérie. Un changement de posture nécessaire, explique le texte, face aux vexations et entraves soigneusement mises en scène par Alger, en particulier l'action d'influenceurs algériens sur les réseaux sociaux, qualifiés de menaces directes à la sécurité. Une manière de placer dans le débat public français les propositions défendues par Bruno Retailleau, pas vraiment partisan des conciliabules diplomatiques prônées par son collègue des affaires étrangères Jean-Noël Barrot. La position du Quai d'Orsay, qui semble pour l'instant avoir les faveurs d'Emmanuel Macron, au moins dans sa volonté de ne pas outrageusement mettre en scène la dispute entre les deux pays.
Le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, qui a rendu hommage aux victimes de la tempête Xynthia ce dimanche. Il y a 15 ans, la catastrophe avait fait 47 morts en 2010, dont 29 dans le village vendéen de la Faute-sur-Mer, dans l'ouest de la France. L'île de la Réunion, frappée en plein cœur après le passage du cyclone Garance. Les dégâts sont nombreux après ce passage qui a fait 4 morts et 5 blessés. La route du littoral reliant l'ouest au nord de l'île a été rouverte à la circulation dimanche à la mi-journée. Les réseaux électriques continuent d'être progressivement remis en route, mais 90 000 personnes restent privées d'alimentation. 65 000 personnes sont encore privées d'eau courante. Le Japon, ravagé par les flammes, 1 800 hectares sont partis en fumée dans le nord du pays. Une personne est morte et plusieurs milliers d'habitants ont dû évacuer. C'est le pire incendie depuis plus de 30 ans. Au Sri Lanka, le patron de la police est en cavale. L'homme de 53 ans s'est fait la malle après une opération policière controversée menée sous sa direction. Les précisions de Léa Oujal.
Quand la police traque la police. Au Sri Lanka, l'inspecteur général de la police, Dejbandhu Tenakun, reste activement recherché. Un juge a délivré un mandat d'arrêt après une opération jugée illégale. Une unité antidrogue, dirigée par le chef de la police, basée à Colombo, capitale du Sri Lanka, avait pour mission d'investir un hôtel d'une station balnéaire de l'île. Pas informée de cette opération, la police locale intervient et déclenche une fusillade. Bilan, un agent des forces de l'ordre tué et un autre gravement blessé. Dejbandhu Tenakun a par ailleurs un dossier déjà bien chargé. Il avait été condamné par la Cour suprême à verser 1 600 euros à un suspect pour l'avoir torturé. Mais le gouvernement de l'époque ne lui avait infligé aucune sanction dans l'attente de son audition. Et la plus haute instance judiciaire du pays avait suspendu l'inspecteur général de ses fonctions. Léa Ojal, New Delhi. RFI.
Une histoire digne d'un film dans les salles de cinéma justement. Une comédie a retenu l'attention des RFI. Il s'agit de C'est bonjour l'asile, effectivement. Judith Davis met en scène deux citadines engagées dont l'une a fait le choix de partir vivre à la campagne près d'un tiers-lieu, un ancien asile psychiatrique convoité par un promoteur immobilier, Sophie Torlotin.
Jeanne part en Bretagne rendre visite à son amie Elisa, qui a mis de côté son féminisme et son travail d'illustratrice pour prendre en charge la vie familiale. Et les retrouvailles ne se passent pas comme prévu.
J'ai pas fait le choix de la petite famille merdeuse qui a rien d'autre à proposer, ça c'est sûr. Parce que toi, tu te racontes le Père Noël avec tes cabanes.
Va donc, sale stalinienne, grosse snob.
Jeanne trouve alors refuge dans un tiers-lieu qui abrite de doudingues, réinventant une façon de vivre ensemble. Judith Davis s'est inspirée d'expériences familières pour inventer cette utopie éminemment désirable.
Moi, je me suis beaucoup inspirée de foyers d'accueil, de maisons de quartier, de tout ce travail que font les associations sur le terrain, qui permettent à la société de tenir debout et d'accueillir parfois les plus faibles, les plus percutés par la vie.
Et elle réalise un film politique sans intention de se prendre trop au sérieux.
C'est un film qui est facile, qui est déjà une comédie, je crois qu'il faut vraiment le dire. Et grâce à mon personnage qui est vraiment l'urbaine, pleine de préjugés, on peut arriver tranquillement dans tous ces lieux sans craindre la naïveté ou des trucs même un peu cucu ou même dans la caricature tout simplement.
Dynamitant toutes les injonctions sociales, Bonjour l'asile s'apparente alors à un conte moderne inspirant.
Le 7e art, toujours célébré en ce moment à Hollywood. C'est la 97e cérémonie des Oscars. Quelques récompenses ont déjà été décernées. Je suis toujours là remporte l'Oscar du meilleur film international. Anora, meilleur scénario original. Le film Emilia Pérez remporte l'Oscar de la meilleure chanson. Son actrice Zoé Saldana, meilleur second rôle féminin. L'Oscar du meilleur second rôle masculin attribué à Kieran Culkin dans le film A Real Pain. Et puis la production lettonne Flo remporte l'Oscar du meilleur film d'animation. Le reste des récompenses à suivre dans les prochains journaux des RFI. Et puis en football, vainqueur de la Cup la saison dernière, Manchester United s'est fait éliminer par Fulham au tir au but. En Italie, l'AC Milan s'enfonce dans la crise en perdant 2-1 face à la Lazio de Rome. Ils sont 9e au classement. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.